Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Le berceau des dominations est un essai de recherche en anthropologie dans lequel Dorothée Ducey étudie les conditions sociales qui rendent possible la persistance de l'inceste au sein des familles françaises. Initialement paru en 2013 et réédité chez Pocket en 2021. Le livre restitue 5 années de travail ethnographique auprès de personnes ayant subi des violences incestueuses et de leurs proches, ainsi que des entretiens avec des hommes condamnés pour viol sur des enfants de leur famille. Son objet ne consiste pas à réduire les faits à des monstruosités exceptionnelles ou à proposer une étude clinique des auteurs. Il examine plutôt les paroles, les sils, les justifications et les rapports de pouvoir qui inscrivent les violences dans une vie familiale apparemment ordinaire. Ducey défend une thèse dérangeante mais centrale, loin de relever seulement de la transgression individuelle, inceste participe à un ordre social de domination, notamment entre adultes et enfants, hommes et femmes, classe sociale. Cet essai vise ainsi à rendre pensable ce que les familles et les institutions tentent à taire. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, traiter inceste comme un fait social plutôt que comme une exception monstrueuse. Le point de départ de Dorothée Ducey est le décalage entre interdiction proclamée de inceste et réalité de violence commise dans des cadres familiaux ordinaires. La représentation de l'auteur comme un individu radicalement différent, reconnaissable par avance ou extérieur à la normalité sociale, protège une illusion rassurante. Elle empêche aussi de voir les contextes concrets qui favorisent les abus dépendance des enfants, autorité familiale, proximité quotidienne, inégalité de crédibilité entre générations et faible disposition de l'entourage à entendre. En refusant de faire de l'auteur une figure exotique, le livre ne banalise nullement le crime. Il déplace la question vers les mécanismes qui permettent à des conduites condamnées en principe de se répéter, de rester cachées et parfois de recevoir des formes de tolérance implicites. Cette démarche anthropologique éclaire la coexistence entre des normes publiques de protection de l'enfance et des pratiques privées où le pouvoir adulte peut se soustraire au regard collectif. Elle invite donc à analyser la famille non comme un espace spontanément protecteur, mais comme une institution traversée par des hiérarchies. La force de cette approche tient à son refus des explications simplistes, psychologisante ou purement morale. Comprendre les conditions sociales de possibilité des violences devient une condition pour ne plus les considérer comme des accidents incompréhensibles. Deuxièmement, le silence familial comme mécanisme actif de maintien des violences. Dans le livre, le silence ne désigne pas seulement absence de mots après les faits. Il constitue un mécanisme social qui organise la possibilité même des violences et leur prolongement. Les enfants dépendent matériellement, affectivement et symboliquement des adultes qui les entourent. Dans ce cadre, nommer ce qui arrive peut mettre en danger leur place dans la famille, leur sécurité ou leur lien avec les proches. Le problème ne relève donc pas uniquement de la capacité individuelle à parler. Il tient aussi à la manière dont les paroles peuvent être minimisées, mal interprétées, disqualifiées ou renvoyées à la honte. Ducey examine ce qui est formulé et ce qui ne peut pas être formulé dans les familles. Cette attention au non-dit permet de comprendre comment la réputation du foyer, la protection de l'adulte, la recherche de paix apparente ou le déni collectif peuvent peser davantage que la parole de l'enfant. Le silence peut également être relayé par des institutions lorsque les récits ne trouvent pas de réception adéquate. Analyser cette dynamique évite de faire porter aux victimes la responsabilité de la révélation. Le livre montre ainsi que le dévoilement ne suffit pas à lui seul, être cru, protégé et soutenu importe tout autant. Cette analyse fait du silence un enjeu politique, familial et institutionnel, plutôt qu'un simple drame intime. Troisièmement, des entretiens avec des auteurs pour étudier les rationalisations sans complaisance. Une singularité majeure de l'enquête réside dans les entretiens menés en détention avec des hommes condamnés pour viol sur des enfants de leur famille. Ce matériau ne sert pas à excuser les actes ni à mettre les auteurs au centre au détriment des personnes agressées. Il permet de saisir les représentations par lesquelles les auteurs racontent, réduisent ou rendent admissibles leurs pratiques. Cette perspective est nécessaire pour étudier comment un agresseur peut inscrire des violences dans une relation familiale tout en conservant une image de normalité, parfois de bon père ou de membre respectable de son entourage. Selon les éléments présentés autour du livre, Ducey relève notamment des logiques de facilité, de mimétisme, de opportunisme et de identification au sein de généalogie familiale. Ces termes ne décrivent pas une causalité automatique, ils signalent que les pratiques peuvent être liées à des rapports appris, à des occasions de domination et à des transmissions de silence. La méthode oblige à distinguer compréhension et absolution. Comprendre les rationalisations des auteurs aide à identifier les opérations qui neutralisent la perception du tort, inversent les responsabilités ou réduisent l'enfant à un objet disponible. Le livre se démarque ainsi des portraits sensationnalistes. il traite les propos recueillis comme des matériaux à analyser de façon critique, afin de montrer comment la violence peut se présenter elle-même comme ordinaire dans le regard de celui qui exerce le pouvoir. Quatrièmement, la famille comme lieu de formation aux dominations de genre, de génération et de classe. La thèse la plus ample de l'ouvrage est que l'inceste ne doit pas être isolé des rapports de domination qui structurent la société. Ducil présente comme un outil de formation à exploitation et à la domination de genre et de classe. Cette formulation ne signifie pas que toute famille produit de l'inceste, ni que les violences se laissent expliquer par une seule catégorie sociale. Elle indique que la violence incestueuse se développe dans un espace où les positions ne sont pas égales adultes face à enfants, détenteurs d'autorité face à personnes dépendantes. Souvent homme face à fille ou à femme dans un ordre marqué par les rapports de sexe. La famille peut transmettre des normes de disponibilité, de soumission, de secret et de loyauté qui dépassent largement les faits sexuels. En mettant en relation ces dimensions, Essai refuse de séparer artificiellement violence privée et organisation collective des pouvoirs. Il donne aussi une portée politique à la protection de l'enfance. Prévenir les violences suppose de prendre au sérieux la parole des mineurs, mais également de questionner les modèles éducatifs et familiaux qui sacralisent autorité adulte ou imposent la préservation du groupe à tout prix. Cette analyse permet de comprendre pourquoi le problème ne se résout pas seulement par une condamnation morale des individus. Il implique les conditions de crédibilité, de dépendance et de hiérarchie qui organisent les relations familiales. En dernier lieu, une enquête ethnographique qui relie récits de victimes, entourages et institutions, le berceau des dominations repose sur une enquête de longue durée, menée pendant 5 ans, et sur une pluralité de points de vue, les récits de personnes incestées devenues adultes. Les observations concernant leur famille et les entretiens avec des hommes condamnés fournissent des matériaux différents, dont aucun ne peut épuiser le phénomène seul. Cette composition est importante sur le plan méthodologique. Elle évite de limiter le sujet aux catégories judiciaires ou aux récits médiatiques, tout en conservant la gravité des crimes étudiés. Les victimes permettent de saisir les conséquences du secret et les obstacles rencontrés pour faire reconnaître les faits. Les propos des auteurs renseignent sur leur justification et sur leur manière de se situer dans la parenté. Les configurations familiales montrent enfin que les violences ne se maintiennent pas seulement dans une relation entre deux personnes, mais dans des environnements où circulent loyauté, déni et prise de position. Le travail ethnographique ne fournit pas une recette universelle ni une explication unique de chaque situation. Sa contribution est de restituer la complexité sociale sans dissoudre les responsabilités. Par son attention aux relations concrètes et aux usages du langage, Ducy donne des outils pour lire autrement les apparences de respectabilité familiale. Le livre illustre ainsi la capacité des sciences sociales à rendre visibles des réalités longtemps reléguées au statut de secret privé ou de sujet indicible. En conclusion, le berceau des dominations intéressera en priorité les lecteurs de sciences sociales, les personnes engagées dans la prévention des violences sexuelles, ainsi que les professionnels ou étudiants qui travaillent sur la famille, enfance, justice, santé ou action sociale. Il peut aussi être utile à toute personne qui cherche un cadre d'analyse rigoureux pour comprendre pourquoi les violences incestueuses ne peuvent être réduites à quelques figures de prédateurs isolés. La lecture est exigeante en raison de son sujet et de la nature des matériaux abordés. En retour, elle apporte une compréhension plus précise des relations entre secret, autorité, dépendance et crédibilité de la parole. Son bénéfice intellectuel principal est de déplacer le regard. Il ne suffit pas de condamner les faits. Il faut examiner les conditions sociales qui permettent de les commettre, de les nier et de les transmettre comme un impensé familial, par rapport à des essais surtout centrés sur le droit, la psychologie ou les témoignages individuels. Ce livre se distingue par son ambition anthropologique et par le croisement de récits de victimes, de proches et de personnes condamnées. Cette démarche ne relativise pas la responsabilité des auteurs. Elle montre au contraire pourquoi une réponse durable doit viser les systèmes de silence et les hiérarchies qui protègent les agresseurs. La place accordée à la banalité sociale des situations plutôt qu'au spectaculaire. En fait, une contribution marquante pour penser les violences incestueuses dans leur dimension collective. Si vous souhaitez soutenir Dorothée Ducy, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.